Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre la fréquence de la paix qui vous propose ces nouveaux numéros des paroles aux auditeurs. Au cours du Conseil des ministres du vendredi dernier, le président Félix Tshisekedi a demandé au gouvernement de solliciter auprès du Parlement une prorogation des 15 jours de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, cette première prorogation va aider les FARDC à continuer le déploiement de leur plan sur terrain afin de traquer les forces négatives qui opèrent dans ces provinces. Félix Tshisekedi a salué les efforts constants des nouvelles autorités militaires de deux provinces placées en état de siège. Un mois après, que pensez-vous du travail accompli sur terrain pendant cet état de siège? 081-890-4969 sur le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine mis en onde par Paul Badeniam. Jocelyne Mukendi assure la réalisation. Quant à moi, Pierrot et la Meiji, c'est un réel plaisir de vous les présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Et pour en parler, nous recevons dans ces studios Monsieur Jackson Aoussé, député national élu de la circonscription électorale d'Irumu dans la province de l'Ituri. Monsieur Aoussé, bonjour.
Bonjour, Monsieur le journaliste.
Et un mois après, rappelons quand même à nos auditeurs que nous avions fait avec vous une émission Parole aux auditeurs au lancement de l'état des sièges.
Exactement, je reconnais, nous étions là, on était là et nous sommes encore là parce que nous sommes dictés par la situation de la population. Nous on est guidé par les orientations de la situation de la population. Et donc, je suis très heureux pour votre invitation. Et je suis très heureux que les auditeurs seront disponibles pour nous écouter, pour que nous puissions, n'est-ce pas, passer au peigne fin ce qui s'est passé dans un mois, parce que c'est aussi peu et c'est aussi beaucoup.
Alors, un mois après, vous êtes en contact avec vos électeurs, vos élus. L'Ituri est concerné par l'état des sièges ainsi que les normes que vous. Quels sont les éléments positifs, d'abord, de ces mois, un mois de l'état des sièges, avant peut-être d'évoquer les éléments négatifs?
Exact. Les éléments négatifs ne peuvent pas être là où il n'y a pas des éléments positifs. Mm-hmm. Les éléments positifs, et jusqu'à ce stade-ci, c'est que nous avions vu les autorités civiles être remplacées par les autorités militaires. Au niveau des provinces, on est descendu même aujourd'hui jusqu'au niveau du territoire. Mm-hmm. Dans tous les territoires, il y a eu de nouvelles nominations où nous avions vu des généraux être nommés au poste des administrateurs du territoire. Ça, on peut quand même noter, c'est positif parce que c'est aussi sans l'état de siège. Mm-hmm. L'état de siège, c'est aussi entre autres remplacer les autorités civiles par les autorités militaires. Mm-hmm. L'autre côté positif, c'est aussi qu'il y a eu quand même augmentation de nombre de militaires dans les provinces de l'Ituri et dans les provinces de Nord Kivu. Mm-hmm. On a vu des augmentations des militaires, néanmoins dans des grandes agglomérations, il y a la présence manifeste de militaires, et aussi on a vu à travers la télévision tous les équipements militaires qui n'existaient pas dans les temps étaient déployés dans la zone. Donc les autorités militaires sont présentes, les militaires sont présents, et il y a aussi la présence ne serait-ce que des minimums de matériel, mm-hmm, qu'on pouvait noter dans la province, parce que ces éléments n'existaient pas avant que l'état de siège ne soit proclamé.
Alors, mais quand on entre dans le fait, il y a eu qu'à, sur les plans des opérations, quel est le point que vous faites aujourd'hui avant l'instauration de l'état de siège sur les plans des opérations sur terrain dans ces deux provinces?
Sur le plan des opérations militaires, c'est là où ça grippe un peu. Mm-hmm. C'est là où ça dénote, au fait. Parce qu'effectivement, l'état de siège était demandé par nous tous, par la population, par la société civile, par les députés, par toutes les forces vives, n'est-ce pas, des deux provinces. On était pour. Mais, dans notre pensée, dans notre idée, nous, on attendait les opérations militaires. On attendait les offensives. Les autorités civiles qu'on venait de remplacer, monsieur le journaliste, n'ont pas démérité. Ces autorités ont travaillé. Ces autorités, avec nous autres, nous avions sensibilisé. On a sensibilisé les réunions avec les chefs coutumiers, avec les leaders locaux, persuadés même les groupes armés. On a fait ce qu'on devrait faire, mais les tueries n'ont pas cessé. Et mais malheureusement, on a constaté que l'état de siège a été restauré. Les autorités militaires ont passé beaucoup de temps dans des consultations, dans des réunions, dans des sensibilisations. Ça, cette étape était déjà en fait. Nous, on les entendait aux offensives militaires pour conditionner les éléments des groupes armés, ceux qui veulent la paix, d'accéder à la paix. Donc moi, je pense que de ce côté-là, ça posait problème. Et je pense que nous allons l'évoquer avec les auditeurs dans le cours de la mission. Et ça fait qu'aujourd'hui, le bilan par rapport à la protection des civils, parce que c'est aussi ça l'enjeu, l'objectif global de toutes ces décisions, c'est la protection des personnes civiles. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire, l'état de siège est en train d'être égal
Fait que ça soit au nord Kivu, au sud Kivu, il y avait quand même un moment avant l'état de siège où les tueries étaient presque régulières. Il y a eu ces drames, peut-être qu'on pourra évoquer ce qui est arrivé dans les territoires d'Ituri avant-hier. Les amis des dialogues entre Congolais en ont parlé, on va revenir là-dessus. Quelle a été, si on peut dire, l'intensité des tueries pendant ces mois ici? Est-ce que ça a augmenté? Il y avait une stagnation ou ça avait tendance à baisser par rapport aussi à certains villages qui étaient occupés par les groupes armés? Est-ce qu'il y a-t-il quand même une évolution ou tout est resté comme c'était avant?
Là, nous serons obligés d'être cohérents de nous-mêmes et de refléter la vérité parce que c'est la vie de notre population qui est en danger. Mais si les journalistes, par rapport à la protection des civils, rien n'a changé. Les maisons sont encore fumantes. Les corps des personnes incendiées sont encore fumants. Que ce soit au nord Kivu et en Ituri. Le bilan est très largement mitigé, pour ne pas dire négatif, parce que les gens continuent à mourir. Les morts continuent à être comptés. Mais c'est cela le danger. Parce que dans un mois, si on peut déjà comptabiliser autour de 70 personnes tuées dans l'Ituri et soixantaine de personnes tuées dans le nord Kivu, c'est des morts de trop. Dans
les cadres. Est-ce que l'état des sièges, ce n'est pas aussi trop attendre de l'état des sièges comme si c'était une solution automatique, magique, où on pouvait se réveiller le matin? Tout a été éradiqué complètement. Vous m'aviez dit vous-même le nombre de groupes armés qui existent dans toutes ces deux provinces. Est-ce que c'était possible qu'on se réveille le matin, même dans un mois, et qu'on fait taire carrément le groupe armé et tous les bruits de bottes dans ces deux provinces?
Exactement. On ne peut que demander trop à l'état de siège. On ne peut pas ne pas leur demander trop. L'état de siège est une mesure extrême. Il n'y a pas une autre mesure qu'on peut qualifier d'extrême à part l'état de siège. Là, nous sommes allés à l'extrême d'une décision politique. Et donc, on ne peut pas ne pas leur demander trop. Une semaine suffirait pour que les zones sensibles, les zones de haute menace soient quadrillées, soient, n'est-ce pas, mise à l'écart. Je parle de ce qui se passe au nord Kivu, de ce qui se passe dans le territoire de Beni, ce qui se passe dans le territoire d'Irumu. Ce sont des zones qui étaient toujours sous menace permanente, n'est-ce pas, des groupes armés étrangers. Et je pense que à la veille même de la proclamation de l'état de siège, ce sont ces zones-là qui devraient préoccuper. Je vous informe que l'ennemi est entré dans les cadres déplacés vers minuit. Oui. Il s'en est assorti le matin et sans aucune forme de riposte. L'ennemi n'est pas tombé, mais il a laissé derrière lui 50 personnes tuées, même nos forces armées. Nous les représentons condoléances ensemble avec la population. Ah donc, ici, nous nous disons, ça poserait problème. Et nous sommes en train de dire, le gouvernement doit être et maintenant devant ses responsabilités. Parce que l'état de siège est une décision politique et ça doit être accompagné par plusieurs autres actions, mesures qui doivent venir après. Nous, on a constaté, nous ne sommes pas à l'intérieur de la gestion de l'état de siège, mais nous constatons, au dépend de ce qui se présente devant nous, apparemment les moyens n'ont pas suivi la proclamation de cet état de siège. Et si tel est le cas, il faut que le gouvernement puisse agir vite, plus vite, parce que sinon, la décision voilà. sera, risque d'être discréditée mmh. devant la population.
Nous allons écouter les auditeurs qui sont en ligne. Hein. Jackson, d'abord François plutôt. François Etaïlebo, Christian Etichia Kinshasa et Jérémy Alboumbachi. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Mais je rappelle encore que vous pouvez aller sur la page Facebook pour commenter ces sujets. On commence avec François, bien sûr. C'est Franck plutôt. Hein. Bah, voilà, il y a François et Franck. Franck, merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour notre ami Pierrot, bonjour à l'invité l'honorable Jackson Aoussé, à vos collègues au studio, à tous les amis de la radio Katia avec qui nous allons nous échanger.
On vous écoute Franck par rapport à cette question, nous faisons les points hein, sur le 1 mois, mais aussi des pistes et des solutions pour renforcer et améliorer.
Oui, merci beaucoup pour l'expression, pour la parole. Au regard de l'article 85 de notre constitution et par rapport à ce qui se vit dans les deux provinces soumises à l'état de siège et aussi par rapport à cette situation imprévue avec l'éruption volcanique, il y a lieu de comprendre que notre chef d'État sollicite auprès de notre Assemblée nationale cette prorogation de 15 jours pour certaines raisons et facteurs sociopolitiques et militaires compréhensibles. Parce que d'abord, il faut reconnaître que notre pays gère vers la partie orientale des gammes de pourriture et de fragmentation de nombreux conflits ici sur base de divers enjeux. Il y a des enjeux sociaux, politiques, économiques, sécuritaires et également hégémoniques de la part de nos voisins aussi avec l'implication de certaines puissances occidentales. Ainsi, sur base de ces rappels, de ces aspects rappelés, notre armée européenne, nos FARDC font souvent face depuis presque 2 décennies à des gammes de milices et groupes rebelles qui ne cessent de semer de la zizanie avec la complicité de certains compatriotes au sein comme en dehors des institutions dirigeantes en place. Ensuite, cette situation de pourriture et de fragmentation persiste depuis 2 décennies. Ainsi, il faut pour ce genre de situation des réponses à aussi adapté. Et la proclamation de l'état de siège constitue en réalité un régime de gestion en temps de crise. Et ce sont des réponses de posture constitutionnelle et juridique. Je me réfère là à la terminologie du prof Jacques Dioli que je suivais hier avec attention sur vos ondes et sur Dialogue entre Congolais. Et par rapport à cette option de réponse en face de l'existence d'un tel conflit qui perdure depuis des décennies, ce qui est attendu par les citoyens congolais dans leur ensemble, je trouve qu'elle ne se réduirait pas seulement à ce que nos FARDC puissent repousser ou déloger ces rebelles en récupérant toutes les localités qu'ils assiégeaient. Mais la finalité, mon ami Pierrot, c'est de cet état de siège consiste en effet à le neutraliser définitivement afin que le calme revienne de manière durable dans ce coin de la République vers la partie orientale. Ainsi, nous pensons qu'il est totalement compréhensible de solliciter cette prorogation de la part de l'Assemblée nationale. Toutefois, comme l'invité venait de le dire, il y a peut-être lieu de rappeler à nos gestionnaires de ces deux provinces, surtout à ceux de la province du Nord Kivu, de faire des équilibres pour ne pas se retrouver seulement au niveau de la recherche des solutions d'un problème au détriment de l'autre. C'est pourquoi, au regard de ce qui se vit dans ces deux provinces et vu l'ampleur des enjeux de ces insécurités, il nous faut du temps, de la patience et aussi un soutien vraiment manifeste vis-à-vis des hommes militaires qui se trouvent au front. Et comme la réponse à cette situation de l'état de siège est contenue dans une enveloppe militaire, au regard de l'article 85, il n'est pas aisé pour nous qui observons de l'extérieur de nous permettre de faire des évaluations très exactes et assez objectives au niveau où se trouvent les choses. C'est comme ça que je trouve, moi personnellement, que nous ne pouvons que nous permettre de comprendre que l'Assemblée nationale puisse encore accorder cette prorogation sollicitée afin de finaliser toutes les dispositions mises en place et lesquelles se trouvent dans des enveloppes militaires qui ne sont maîtrisées que par ceux qui maîtrisent les rouages. Donc, personnellement, je trouve que on peut faire un bilan, on peut faire des évaluations, mais du fait qu'on n'est pas vraiment du domaine militaire, on n'est pas dans les circuits des circuits d'État, On se contente de ce qui nous est dit à travers la presse, mais pour une guerre qui se mène, il y a des choses que la presse ne nous dirait pas maintenant. C'est comme ça que je trouve que personnellement, il faut encore se réserver en encourageant ce qui se passe là sur place. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup. Rappelons quand même qu'hier, le ministre de la Défense a annoncé, après une réunion d'évaluation des opérations, n'est-ce pas, dans le Nord Kivu et l'Ituri, il a annoncé que le ministère du budget et des finances ont mis à la disposition du ministère des finances des moyens conséquents. Il a dit, d'ailleurs, il a insisté qu'il y a beaucoup de gens qui vont être bougés, déployés dans ces zones et ça demande beaucoup de moyens financiers qui sont maintenant à la disposition du ministère de la Défense. A-t-il dit, d'ici deux semaines, beaucoup de choses vont changer parce qu'ils ont maintenant suffisamment des ressources. Ça a été annoncé hier. Merci beaucoup, Franck, parce que vous l'avez dit, il faut arriver vraiment à la neutralisation définitive et totale des groupes armés. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour également à l'invité. Je pense que la demande du chef de l'État au gouvernement pour la sollicitation de la prorogation de l'état de siège vaut son pesant d'or, hein, parce que dans la mesure où les résultats escomptés, voire même des prouesses considérables de la part des autorités nommées, vraiment sont visibles. Ça, il faut les dire. Ça, c'est une marque d'éclat qu'il faut vraiment signifier. Et je pense que ceux-là qui pensaient que l'état de siège était une fausse affaire, voilà, il y a quand même des retombées positives. Alors, je pense qu'on ne doit pas tout le temps être pessimiste, même là où il ne faut pas être, je ne sais pas, radical, même là où il ne faut pas l'être. Je pense que nous sommes en train de voir que nos frères de l'Est ont sué sang et eau. Voilà, le moment est arrivé. Il fallait vraiment que l'état de siège soit mis en place pour que, enfin, l'ennemi soit vraiment poursuivi et jusqu'à son dernier retranchement, ce qui est un geste à saluer à juste valeur. Parce que le souhait de tout un Congolais, c'est de voir la quiétude, la bonne quiétude pour nos frères qui sont à l'Est, parce que ils ont subi les vents de toutes couleurs. Voilà. Alors là, je voudrais maintenant commencer un peu à faire un peu les diagnostics, donc c'est-à-dire un petit bilan hein, sur le un mois déjà. Je pense que il faut saluer ces gestes. Mais attention, parce que il faut qu'on tire beaucoup d'attention, parce que l'ennemi peut monter une stratégie, ça veut dire essayer un peu de reculer pour pouvoir réattaquer davantage. C'est pourquoi moi je me dis que lever l'état de siège à ce stade n'est pas d'actualité. Il faut que ça reste maintenu pour pouvoir, n'est-ce pas, donc attaquer totalement l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Une autre facette, un registre qu'il faut vraiment saluer, donc rappeler, c'est que nos compatriotes, nos militaires, nos voyants militaires qui sont en front, je pense qu'il faut vraiment qu'on leur, il faut vraiment de la reconnaissance en leur faveur, parce que ils sont en train de défendre notre drapeau. Alors il faut vraiment allouer de moyens conséquents et aussi visiter leur famille à chaque moment, parce que ce serait vraiment une manière de les consoler, parce que vous savez que lorsque les gens sont au front, il faut à tout moment aussi rendre visite à leur famille pour le réconforter, parce que ils ont délégué un parent qui est au front. Tout ça, ce sont des facettes à revoir. Et aussi, il faut allouer un budget conséquent pour ce point-là. Et aussi, voir aussi d'autres provinces qui sont en train de montrer les griffes à gauche, à droite, les poches d'insécurité. Il faut, voilà le moment de pouvoir, n'est-ce pas, mettre un peu des stratégies possible pour pouvoir, n'est-ce pas, ramener les choses sur l'orbite, parce que là il faut, oui, là il faut dire clairement que cette prorogation ne peut jamais connaître, je ne sais pas, de frein, parce que ça aide un peu à ce que nos militaires s'adonnent correctement pour que
alors,
les choses...
Alors, parce que, mais oui, mais merci, mais... merci beaucoup Jérémy, mais on est déjà à l'étape d'évaluation et vous estimez que le fait déjà d'avoir instauré l'état des sièges était déjà bon, mais faudrait-il maintenant encourager cet état des sièges, mettre des moyens? Notre invité le disait tout à l'heure et je venais d'ailleurs de paraphraser le ministre de la Défense. Merci hein, de nous avoir appelé. Notre ami héritier qui nous écrit de Kisangani n'a pas ses points de vue. Pour lui, il estime que héritier plutôt, il est à Kindu. Pour lui, il estime que bon, l'état des sièges dans les deux provinces n'a pas résolu le problème et ne résoudra pas les problèmes, bien sûr, des rébellions dans ces deux provinces. Alors en ligne, nous avons Christian qui est ici à Kinshasa. Bonjour Christian.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité.
On vous écoute Christian.
Merci de la parole accordée. Pierrot, je crois que cette décision, c'est aussi cette mesure a quand même fait bouger quelques lignes. Il suffit tout simplement de voir l'attitude du Rwanda. Les rapports Mapping a été publié depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, ces rapports fait encore tousser ce qui semblait être statique. Et laquelle tout s'avère être un boulevard de la maladie qu'on appelle tuberculose. Et donc, les rapports Mapping a créé la tuberculose politique et juridique au Rwanda. Alors, c'est à cause même de cette mesure dite état d'urgence. Et donc, je crois que cette mesure vaut vraiment son pesant d'or. Et même s'il y a quelques imperfections, nous devons aujourd'hui comprendre que l'armée a été infiltrée, l'armée n'a pas assez de moyens, l'armée n'a pas assez du matériel. Et aujourd'hui, par rapport à ces résultats, je crois que nous pouvons quand même les soutenir. D'où l'urgence, je crois que ce serait également celui de soutenir cette prorogation, dans ce sens qu'il y a plusieurs localités, cités et autres agglomérations qui ont été récupérées. Et aujourd'hui même, avec cette question d'irruption volcanique, je crois que cela pourrait également être un tremplin, dans le sens que tout le monde a quitté, toutes les personnes ont fui la ville. Même les rebelles également ont perdu la mort. Ils ont fui leur, je dirais, zone de confort. Donc il y a la possibilité pour l'armée, aujourd'hui avec l'état de siège, de récupérer les zones autrefois contrôlées par les rebelles. Parce qu'aujourd'hui, comme ils ne sont plus là, il y a possibilité de les démanteler facilement, même s'il y a quelques préalables qu'il faudrait observer. Et donc, Pierre Lamézi, par rapport à cette question, nous pensons que concernant la prorogation, ou encore dans le cadre de notre réflexion sur la performance des élus provinciaux, nous avions proposé un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, nous proposons ce que, à savoir que l'État doit recourir aux mesures dites, aux mesures allant dans le sens, par exemple, sur la convocation d'une session extraordinaire ou encore la convocation d'un congrès, on doit extirper l'aspect budgétaire, l'aspect pécuniaire dans cette démarche. Parce que nous sommes dans un pays où tout est prioritaire, nous sommes dans un pays où les cas fortuites s'invite de plus en plus. Alors, mettre toujours le budget extraordinaire derrière ces genres de questions, c'est vraiment vouloir une chose et son contraire, c'est carrément asphyxier l'État. D'où nous nous proposons ce qu'il y a. Chaque fois que l'on va convoquer une session extraordinaire ou un congrès, que l'on enlève l'aspect budgétaire, si les députés peuvent percevoir quelque chose, qu'ils perçoivent au moins un jeton de présence qui ne dépassera pas justement les sommes qui ne dépassera pas 2 millions de francs ou 3 millions de francs congolais. Donc je crois que ça sera raisonnable. Mmh. Et donc
sur la oui, oui, là c'est par rapport à votre souci, c'est comment on peut arriver à budgétiser toutes ces opérations qui coûtent cher. On peut faire des coupes budgétaires d'une manière ou d'une autre, mais au moins tu estimes qu'il y a eu quand même des villages qui ont été récupérés dans certaines localités et il faudrait continuer, mais on ne peut pas continuer si on ne donne pas à l'armée des moyens assez consistants. C'est votre point de vue. Merci beaucoup. Il y a aussi un autre ami.
J'aimerais finir pour dire, Pierrot,
rapidement,
pour éviter la métastase des groupes rebelles et terroristes, je crois qu'il faudrait, si c'est vraiment opportun, de prendre ce genre de mesures dans d'autres villes ou agglomérations qui sont jusque-là menacées par ces genres de mouvements. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ennemi, c'est en fait comme une maladie. Lorsque vous le chassez à gauche, il a toujours tendance à aller à droite,
voilà,
là où il y avait la paix.
C'est ce qu'il dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Christian. Merci, Christian. C'est ce qu'il dit Franck Akili Biamungu, qui nous écrit des Baraka. Il est sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Il dit il faut saluer quand même la mesure et sa prorogation. Mais le problème aujourd'hui est que l'ennemi a tendance à changer des stratégies, hein, comme ce qui s'est passé à Boga, à Ituri. Il a tendance à s'infiltrer dans d'autres provinces et surtout dans d'autres groupes et localités qui étaient tranquilles. Et c'est là où l'armée doit être vigilante. On va écouter Marie-Paul qui est à Kisangani et revenir dans ce studio pour une réaction de notre invité. Marie-Paul, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et j'ai vu votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs autour de cette question. On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, la demande du président Félix à l'Assemblée nationale pour la prorogation de l'état de siège est non seulement en harmonie avec la Constitution et la loi sur l'état de siège en vigueur en RDC, mais elle est surtout, elle permet surtout la poursuite effective justement des opérations militaires contre les forces négatives en RDC et en général et aussi dans les deux provinces concernées. Alors, en ce qui concerne les résultats un mois après la mise en place de l'état de siège dans notre pays, il faut dire que les résultats sur le terrain est encore précaire, d'autant plus que il y a encore une certaine montée en puissance, je sais pas, des mouvements ou des rebelles qui continuent à sévir dans ces contrées là et aussi toutes ces menaces là ne font que déstabiliser justement la stabilité de l'autorité de l'État dans ces points concernés. Et à mon avis, ce qu'il faut justement pour les gouvernants congolais, c'est d'intensifier. Ces gouvernants congolais doivent intensifier justement les opérations sur le terrain. On doit intensifier en nombre et on doit intensifier des mesures justement pour que on puisse éradiquer complètement les forces négatives dans notre pays. Et voilà pourquoi dans des omissions précédentes, j'avais dit qu'on doit veiller sur la sécurisation des frontières. Nous savons, si on insiste sur ces faits, parce que nous avons quand même certaines connaissances, nous nous promenons quand même à travers les provinces, il y a une sorte de porosité, il n'y a pas assez de contrôle dans nos frontières. Il faut qu'on sécurise parce que les gens qui sont commis dans des frontières n'exercent pas réellement des services qu'il fallait. Et ils s'occupent juste à rationner un peu, à trouver de l'argent, alors que les bien fondé de ça, c'est pour endiguer certains mouvements qui devraient transcender d'une frontière à une autre. Est-ce que s'il y a cette transcendance avec les contrôles des frontières, on peut absolument mettre fin à cela. Et aussi, moi je pense que cette demande du président à l'Assemblée est insalitaire constitutionnellement. Et cela permet aussi de créer des opérations soutenables afin qu'on puisse quand même éradiquer ces mouvements rebelles. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer, monsieur le journaliste, que l'existence des forces négatives dans notre pays ne permet pas les pays à avancer. Et ces mouvements-là, parce qu'il y a même des priorités, il y a des priorités qu'ils devraient faire, il y a des situations, il y a, vous savez, ces provinces-là, ce sont des provinces qui sont aussi productives et qui ont beaucoup plus d'activités. Mais le fait qu'il y a toujours les minéraux aussi, d'ailleurs, pour notre pays, il y a des minéraux qui sont exploités là-bas, et tous ces minéraux devraient absolument contribuer bien au budget de l'État. Mais ces minéraux sont bradés par les forces négatives. Voilà, il faut absolument qu'on intensifie vraiment des mesures afin de lutter efficacement contre ces opérations. Je vois ici, on a besoin d'hommes. Il faut vraiment qu'on envoie assez d'hommes parce que ce sont des vastes étendues, il n'y a pas assez de gens. Je pense
suivi notre invité tout à l'heure, il disait qu'il y a une augmentation de militaires dans ces deux provinces qu'on ne voyait pas avant, mais vous insistez beaucoup sur la question de l'intensification des opérations, c'est ce qu'on appelle les opérations de grande envergure, c'est ce qui revient sur notre page Facebook. Notre ami Kitsa qui est à Goma, il l'a dit, il y a quand même à saluer, mais pour lui, les résultats, c'est pas ce qu'on attend encore, mais il estime que pour arriver à un bon résultat, il faut des opérations de grande envergure. Mais pour les Nord-Kivu, il s'inquiète aussi de voir que tout le monde est maintenant concentré plus à la situation de l'éruption du volcan et ses conséquences qu'à la question de l'insécurité. Mais lui, il estime qu'il faut que les deux gouverneurs militaires lancent des opérations de grande envergure. 081-890-4969. Et 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous allons revenir à vous, vous êtes encore nombreux sur notre standard.
Parole aux auditeurs.
Nous retournons dans ce studio, messieurs Jackson, vous avez suivi nos compatriotes. Il y a un mot qui revient, c'est plus les moyens, les opérations des grandes envergures. Voilà. Et comment vous réagissez par rapport à l'ensemble des points de vue?
Je les ai écoutés... Ils ont été positifs. Et moi, je pense que le gouvernement, la balle se retrouve dans les camps du gouvernement. L'état de siège a bénéficié de l'adhésion de tout le monde. Mm-hmm. que ce soit la majorité, l'opposition, la société civile, même les membres des communautés internationales, tout le monde a adhéré à l'état de siège. Il était question que le gouvernement puisse tout simplement aller jusqu'au bout avec sa logique. Vous savez que toute la difficulté reste ici, que l'état de siège, c'est une gestion, c'est un mode de gestion exceptionnel. Mm-hmm. Et un mode de gestion exceptionnel, malheureusement, elle n'a pas, elle ne bénéficie pas de beaucoup de temps,
ouais.
Sur le plan de timing d'abord. Mm-hmm. Si vous lisez la constitution, vous lisez les lois, vous allez comprendre qu'elle est très limite. Donc, l'état de siège est très limitatif, en fait. Et quand on déclenche une opération comme ça, ou un mode comme ça, il faut en être conséquent. Vous allez comprendre, vous venez de dire, vous venez de paragrapher le ministre de la Défense, qui venait d'avoir les moyens. Qui venait d'avoir les moyens après combien d'états? Est-ce qu'il faut attendre 27 jours pour qu'on disponibilise les moyens? Et comment est-ce qu'on va récupérer ces 27 jours? Mm-hmm. La prorogation est demandée. Nous sommes de bonne foi. Nous allons demander aux collègues qu'ensemble, qu'on prorange cette histoire. Mais, quand on va les prolonger combien de fois? La prorogation n'est que pour 15 jours. Et après 15 jours, il faut qu'on revenir. Donc, vous allez comprendre que l'État n'est pas, le temps n'est pas notre allié, mm-hmm, dans cette histoire d'état de siège.
Oui.
Donc, nous devons être très conséquents. C'est pour cette raison que j'interpelle à travers votre antenne, le gouvernement, d'être proactif. L'état de siège n'est pas une situation normale. L'idéal serait qu'on retourne à une situation normale de gestion de ces deux provinces. C'est cela, ça, l'idéal. Alors, si nous allons continuer à tarder les mesures d'accompagnement, les facteurs essentiels d'accompagnement, je vous informe que nous risquons de sortir de cet état de siège et rester de là où nous étions. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que l'état de siège a été décrété pour la protection des civils, pour l'éradication des groupes armés, mais aujourd'hui, est-ce que nos groupes armés sont éradiqués? Non. Est-ce que les gens ne sont pas tués? Les gens sont tués. Les pièges, comment se portent les pièges? Les pièges se portent encore très bien dans les territoires de Djougou, hier et avant-hier. Il y a eu des pièges à cascade. Donc, je vous informe que le gouvernement doit se mettre au travail. Doit vraiment se mettre au travail. L'Assemblée nationale, très attachée à la population, ne va pas réfléchir par deux fois pour ne soit prorogé l'état de siège. Mmh. Alors, mais la prorogation ne suffit pas par elle-même. On peut proroger autant de fois, mais si le mécanisme d'accompagnement, n'est-ce pas, très renforcé, n'est pas pris en compte, ça va pouvoir ne pas produire des effets.
Mais quand on regarde la manière dont, si on prend les 15 dernières années, on est parti d'une dizaine à des centaines de groupes armés, et je me pose la question de savoir comment peut-on réduire sensiblement des centaines de groupes armés. Est-ce que tous ces groupes armés doivent être éradiqués par des opérations militaires? Est-ce que cette étape aussi d'appel pour le DDR, est-ce que ce n'est pas aussi une étape qui est importante? Parce qu'il faut quand même qu'on regarde la réalité en face, quel que soit le moyen qu'on peut aujourd'hui allouer au FRDC. Pensez-vous qu'on puisse réduire une centaine de groupes armés dans les opérations d'une semaine, d'un mois, de deux mois?
Oui, tu as raison. L'approche des DRC aujourd'hui, parce qu'on parle de DRC, récession communautaire, et l'approche militaire ou les opérations militaires ne sont pas des approches incompatibles. Hein? Ce sont des approches qui se complètent d'ailleurs. Mm-hmm. Moi, je pense que plus les opérations militaires sont intenses, plus ça donne la chance, n'est-ce pas? Ça donne la chance, ça ouvre la chance, ça ouvre la brèche pour que la DRC, parce que nous devons conditionner les éléments des groupes armés à accepter d'aller au DDR. Mais sans une opération militaire, généralement, quand on déclenche le DDR, les groupes armés se permettent, ils mettent même la barre très haut. Ils demandent et le ciel et la terre. Donc, moi, je pense que les opérations militaires resteraient pour moi un levier important sur lequel on
pour
doit
contraindre les groupes armés
pouvoir accepter sportivement, sans beaucoup de conditionnalités, d'accepter les DDRC. Moi, je pense que la balle est du côté du gouvernement, mais nous voyons le gouvernement y aller avec beaucoup de retard, parce que nous disons l'état de siège ne doit pas rester internellement. L'état de siège doit être déclaré, la mission doit être exécutée et la situation doit revenir au normal et que les autorités civiles reprennent, parce qu'il y a aussi l'aspect de développement qui traîne dans la zone.
C'est très important. Voilà, Divin est dans la province du Sud Ubangi, éminent est à Bukavu. Divin, on commence avec vous. Mais bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Julien. Bonjour à tout le journaliste de la radio Okapi.
On vous écoute, Divin.
Oui, d'entrée de jeu, je tiens à féliciter les choses de l'État pour l'instauration de l'état de siège dans la partie est du pays, avec comme objectif de neutraliser tous les groupes armés qui sèment la désolation dans cette partie, afin que cette population qui a tant souffert puisse retrouver la paix. Un mois après l'instauration de l'état de siège dans la province de dans les provinces civilisées, l'allié a constaté que les effets positifs escomptés sont en train d'être constatés. Car plusieurs groupes armés ont été neutralisés, les armes ont été récupérées, les FARDC ont occupé déjà plusieurs espaces dont occupaient jadis les ADF. La prolongation de l'état de siège est une bonne chose, mais celle ne suffira pas. Pendant qu'il ne sera pas accompagné ou supplié de mesures accompagnateurs. Je fais allusion ici également à l'appel fort du président de la Chambre basse, jadis au mois d'avril dernier, lors de l'ouverture de l'Assemblée plénière, où il avait fait appel à ses pairs de pouvoir quitter les groupes armés à l'est du pays. Et c'est un appel fort, une grande révélation pour dire que tout le monde, toutes les plateformes doivent travailler main dans la main pour que la paix puisse être retrouvée dans cette partie du pays. Également, l'édiction d'urgence d'une loi pouvant déterminer les modalités d'application de cet état de siège par les députés, comme prévu par la Constitution dans son article 85, une fine. Nos députés, nos élus nationaux sont en train de pouvoir rêver. Pourtant, nous avons besoin d'eux. Je pense que seul le chef de l'État pourra tout faire, alors qu'ils ont également un rôle très important à jouer dans ce sens de pouvoir édicter d'urgence une loi pouvant accompagner, pouvant déterminer les modalités d'accompagnement, les modalités d'application de cet état de siège. Au-delà de ça, le soutien, n'est-ce pas, et la franche collaboration de la population avec les autorités de cette partie. C'est-à-dire qu'il faut que la population puisse travailler en synergie avec les autorités de la place, dénoncer en temps utile, se désolidariser de ces groupes armés qui créent de la désolation de la partie est du pays. Parce qu'on en a parlé il y a plusieurs fois, mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que peut-être avec cet état de siège, ça pourra aller. Donc, si jamais on ne tient pas compte de tous ces éléments, on pourra comme ça aller de prolongation en prolongation sans que l'objectif ne soit atteint. Et vous allez constater avec moi que les groupes armés sont ancrés toujours de l'être alors que l'état de siège est déjà instauré là-bas.
Merci beaucoup, Divin. D'ailleurs, cette question de la loi, la loi portant modalité d'application de l'état des sièges, hein, on a mis beaucoup de temps, on n'a pas eu cette loi. Peut-être le député pourra nous dire où en sommes-nous. Y a-t-il déjà un projet ou une proposition? Parce que depuis la mise à la promulgation de la Constitution, cette loi n'a jamais suivi, mais vous estimez qu'il faut accompagner cela sur terrain. Rappelons quand même, comme vous l'avez dit, que certains villages qui étaient jadis occupés par des groupes armés ont été récupérés. On a vu aussi certains groupes armés passer à la reddition, que ce soit au nord Kivu ou au sud Kivu. Merci beaucoup, mais il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir compte. Éminent, vous êtes à Bukavu. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Emina.
Le rétablissement de la paix en Ituri et aussi au nord Kivu n'est pas un jeu du hasard, mais un travail à la fin qui demande un temps plein d'opportunités et de difficultés, demandant des stratégies spécifiques à tous les niveaux. Les signes de vie et l'espoir des retours de la paix dans les provinces de Nord Kivu et Ituri se montrent déjà, et à cela prouve insuffisance de patriotisme et la détermination de ces militaires, malgré les nombreux problèmes qu'ils sont censés de surmonter, comme celui du volcan à Goma, qui s'ajoute actuellement. Mm-hmm. Et cette armée mérite des félicitations, car jusque-là, elle transcende les limites de leurs prédécesseurs.
Merci beaucoup, Espérant, vous êtes revenu sur le courage hein, et l'encouragement à l'armée, quelles que soient les difficultés. Et cette situation qui est venue aussi s'inviter à ça, l'éruption du volcan avec toutes les conséquences si possible. Mais pour vous, il faut arriver à encourager les militaires qui travaillent dans ces conditions-là les plus difficiles. Maître Edmond, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes en Bandaka, bonjour. Maître Edmond, bonjour. Sylvain Indi qui nous écrit, il dit ceci, nous avons été contents en envoyant le président décréter l'état des sièges parce qu'à notre sens, c'était la solution pour la paix. Mais malheureusement, on se rend compte petit à petit que la situation d'insécurité s'aggrave. Rien ne change malgré l'état des sièges. Voilà pourquoi nous préférons qu'on mette fin et qu'on retourne à l'état normal où on était avec des autorités civiles parce que nous ne sentons pas qu'il y a des résultats comme on s'attendait. Solliciter une prorogation, et ça c'est Philippe en Gambia qui nous écrit et qui s'en gagne aussi, solliciter une prorogation de 15 jours n'est pas du tout une mauvaise chose. Il faut également rendre fort nos troupes sur les champs de bataille. Il faut leur donner de moyens conséquents et des techniques aussi de combat très adaptées parce que la guerre, c'est une guerre asymétrique. Je vois cette fois-ci Maître Edmond est avec nous des Mandaka. Bonjour, maître.
Bonjour, monsieur Pirot. Bonjour à tous les auditeurs et à l'invité.
On vous écoute, maître.
Merci pour m'avoir associé à ces débats qui concernent l'état des sièges dans les deux provinces, des Nord Kiv et de l'Opéry. Moi, en ce qui me concerne, je pense que, comme on l'a toujours dit au début même de la proclamation de l'instauration de l'état des sièges, c'est une mesure que nous avions appréciée parce que c'est une mesure qui tend à pouvoir éradiquer l'insécurité que nos frères et sœurs subissent injustement à l'est du pays. Mais malheureusement, moi je pense qu'après 30 jours ou un mois de l'instauration de l'état de siège, je pense que jusqu'à ce niveau, le bilan est négatif parce que l'état de siège avait comme mission non pas seulement de pouvoir éradiquer l'insécurité qui sévit dans les chefs-lieux des deux provinces, mais également de pouvoir étouffer et faire en sorte que tous les groupes armés et les milices ne puissent plus naître. Et je pense que depuis que l'état de siège est installé, bien sûr que les FARDC, nous les félicitons, ils ont quand même fait un travail, ils ont récupéré quelques villages, mais je vous dis qu'il y a toujours des incursions, et il y a aussi des civils qui sont tués pendant que l'état de siège est instauré. Pour vous dire que jusqu'alors, l'objectif n'est pas encore atteint. L'objectif n'est pas que les militaires puissent diriger les entités régionales. Mais l'objectif est que instituer l'état de siège, installer les militaires pour gérer la chose publique, afin de pouvoir mettre fin aux groupes armés. Je crois que l'un des intervenants a dit que même si on instaure l'état de siège, même si on prolonge combien de fois, sachez que les groupes armés finiront toujours à naître. Voilà pourquoi nous avions toujours appelé la population des deux provinces ainsi que les ressortissants de ces deux provinces, notamment les députés, les sénateurs, les politiciens de ces deux provinces, de pouvoir s'associer avec l'armée congolaise, avec le chef de l'État pour pouvoir éradiquer l'insécurité. Si on ne parvient pas à avoir cette mentalité ou avoir cette solidarité, même les militaires qui sont gouverneurs, les militaires qui sont maires de la ville ne pourront jamais faire ça parce que et n'iront pas au front. Il y a les deux provinces, ce sont des provinces qui ont de vastes forêts, de vastes entités locales, et les militaires ne seront pas partout. Ce qui veut dire que pour finir avec cette histoire de groupes armés, ça sera un peu difficile. Avec le 15 jours, ça ne sera pas une chose facile de mettre fin à la sécurité. Voilà pourquoi moi je conseille que les mesures idoines, les mesures permanentes, soit prise avec des moyens conséquents. Ouais, même, on a toujours dit, le chef de l'État congolais, c'est le président en exercice de l'Union africaine. Donc, il a quand même une certaine puissance vis-à-vis de certains pays limitrophes qui nous attaquent injustement. Voilà. Avec cette casquette, il peut s'imposer et appeler même l'aide étrangère afin que ces groupes armés disparaissent pour du bon. Nous ne voulons pas que, à la fin de l'état de siège, deux, trois jours après, nos frères et sœurs de l'Est puissent cibler encore les atrocités. Et
alors là, ça montre. Voilà. Merci beaucoup, maître Edmond. Et ça montre que la question elle est très complexe. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas, elle peut pas être résolue directement sur terrain, sur les plans militaires. Vous avez évoqué la complexité de la situation sur les plans géographiques, le mouvement des populations, la naissance des groupes armés. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est ce que nous dit Moïse Malangou qui nous écrit des Mbujimaï. Pour lui, il s'inquiète pourquoi il y a qu'il y ait aussi d'autres villages où il n'y a pas des FRDC. Je me demande si on a la possibilité d'avoir des militaires FRDC dans chaque groupement, dans chaque chefferie, comme il souhaite que chaque groupement, chaque chefferie puisse avoir des militaires. Et tout ça, ça montre vraiment la complexité de la question. Magloire, on est avec vous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Magloire.
Je rappelle que c'est Magloire Koulikouinja depuis Lubumbashi. Mm-hmm. De ce qui est de la prolongation parce que le bilan du premier état de siège a été positif, nous sommes tous d'accord, mais qu'il me soit permis de constater avec vous que cet état de siège a été positif juste dans le départ, mais c'était juste à l'installation de l'autorité militaire. Là, tout le monde a observé vraiment un bilan très positif. Mais pas plus tard que la semaine dernière où les rebelles ont pris encore de la place en mettant fin à la vie de plus de 100 personnes, nous avons trouvé que cela nous a permis de constater que les rebelles ont plus de stratégies, plus de techniques que nos forces armées. À mon avis, on doit prolonger l'état de siège tout en sachant que ce dernier ne sera pas une solution immédiate pour neutraliser définitivement l'ennemi, qui avait déjà pris cette entité comme son fief. Pour dire que même si on prolongeait, on irait de prolongation en prolongation, mais sache bien qu'il nous faut plus de moyens, plus de techniques, afin que la région soit pacifiée définitivement.
Merci beaucoup, Magloire. C'est-à-dire que les questions de stratégie sont plus importantes. On revient à vous, Jacques Chonaoussé, député national élu de la circonscription électorale d'Iromou. Alors, si on regarde le souci des auditeurs, ça a été exprimé, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de technicité, il faut beaucoup de matériel. Le territoire est très, très vaste. Alors, il faudrait-il aujourd'hui estimer un temps qui peut nous être nécessaire aujourd'hui pour pouvoir gérer cette question dans toute sa complexité, pour éradiquer, comme notre collègue compatriote l'a dit, et pour anéantir totalement les groupes armés?
On ne peut pas arriver à estimer un temps pour faire quelque chose. L'État est un fait permanent. L'État n'a pas une périodicité de dire que non, l'État doit exister à un moment donné, et à un moment donné, on peut ne pas voir la présence de l'État, non. C'est aussi ça le débat. Le travail des militaires n'a pas commencé avec l'état de siège, mm-hmm, et ne finira pas avec l'état de siège. Voilà. L'état de siège, ce n'est qu'un cadre temporaire, un cadre transitoire, à partir du moment où on a senti que la menace prenait une allure incontrôlable, et c'est pour cette raison qu'on y est arrivé. Et moi, je pense que ce n'est pas à dire que non, quand on va arrêter avec l'état de siège, le travail des militaires va aussi s'arrêter. Non, ça, il faut que nous puissions faire le distinguo entre les deux situations. Moi, je pense que le gouvernement doit vraiment aller un peu plus vite, parce que je me dis, là, il nous met en porte-à-faux. Présentement, là, si moi, je me rendais en Ituri ou en Nord-Kivu, je dois aller encourager les FRDC, ou bien je dois aller compatir avec la population. Là, nous sommes mis déjà en porte-à-faux. Nous sommes mis en porte-à-faux. Moi, je pense qu'à ce stade-ci, nous sommes dans une situation où nous devons seulement encourager les FRDC. Mm-hmm. Et pour arriver à encourager les FRDC, nous devons arriver à une situation où, nous, on ne dit pas que la guerre doit finir ici et maintenant, mais la calmer. Ne fût-ce que permettre réduire la capacité de nuisance. On peut le faire. On peut arriver à réduire la capacité de nuisance de l'ennemi. Mais si un des journalistes, on a tué les gens dans les cas de déplacés, est-ce que vraiment sécuriser un camp de déplacés pouvait nous demander vraiment de la tête aux yeux? Je ne pense pas. Ici, c'est tout simplement que l'ennemi est en train de comprendre, mm-hmm, que nous ne sommes pas exigeants envers lui et qu'il peut toujours continuer à faire ce qu'il peut faire. Ah donc, ici, moi je voulais parler plus de faits que de faire des analyses. Le fait est que l'état de siège est instauré. L'état de siège a bénéficié de l'adhésion de toutes les tendances. Mm-hmm. De ce que moi je sais. Et l'état de siège continue encore son cours normal. Et on n'a pas encore interrompu l'état de siège. Mais ici, il y a aussi un autre effet, c'est que la situation ne change pas pour autant sur terrain. Nous devons nous mettre d'accord sur ça, que la situation d'avant l'état de siège et la situation de pendant l'état de siège jusqu'à ce stade n'a pas encore changé. Parce que je dois être cohérent, je dois être cohérent de moi-même. Je n'ai pas changé. Les gens continuent à mourir, les gens continuent à se déplacer, les gens continuent à être pillés, parce que ce sont ça les faits qui a caractérisé l'avant état de siège, mm-hmm. qui a motivé même que l'état de siège puisse, n'est-ce pas, être.
Alors,
être,
quand vous parlez de proclamé. La situation n'a pas changé, il y a presque deux, trois semaines avant que l'actualité soit dominée par l'éruption du volcan Nirangongo, on parlait quand même de certains villages à Ituri qui étaient occupés par la milice Codeco, certaines personnes qui sont retournées dans leur village. Au Nord Kivu, la même chose, qu'il y a certains bastions qui étaient contrôlés par les ADF, qui ont été récupérés par le FARDC. Est-ce que les tueries ont-elles occulté aussi ce qui s'est fait dans les biens, par exemple?
Bon, moi je ne sais pas quel est le village qu'on a récupéré des mains de rebelles, parce que moi je sais qu'il y avait un petit problème au niveau de l'Ituri, où les routes, les groupes armés étaient sur la route nationale numéro 27, et aussi numéro 4, où il a fallu dégager. On a fait quand même ça, on a dégagé ça. Mais les bastions, les groupes armés sont encore dans leurs bastions respectifs. Ah, donc moi, je pense que je ne voulais pas concevoir la face. Moi, je m'arrête à constater tout simplement que l'avant et le pendant état de siège jusqu'à ce stade n'a pas changé. Et par conséquent, nous voulons avoir une autre périodicité. Nous voulons avoir notre timing. Et par conséquent, nous devons alors nous comporter autrement du temps passé. Donc, c'est-à-dire, le gouvernement doit mettre les moyens à la disposition. Parce que moi, je suis sûr que la première prorogation sera accordée, mais la deuxième risque d'être accordée avec beaucoup de difficultés. Parce que, comme je vous avais dit, les travaux des militaires ne commencent pas avec l'état de siège et ne va pas s'arrêter avec l'état de siège. Qui est état de siège ou pas, les militaires sont censés protéger l'intégrité.
Quand vous dites que la deuxième prorogation sera accordée avec beaucoup de difficultés, y a-t-il deux camps? Le camp de... parce que je me rappelle encore, hein, si on peut faire une petite ouverture, je me rappelle encore les débats au niveau de l'Assemblée nationale sur la prorogation de l'état d'urgence pour la pandémie. N'est-ce pas qu'on se met dans la logique où peut-être l'Assemblée est dans un camp, le gouvernement dans un autre? Y a-t-il vraiment une convergence de vues? J'ai entendu même un élu qui estimait que, d'ailleurs pour lui, il a même demandé carrément qu'il ne faut pas proroger, je l'ai suivi dans le débat. Il faut même annuler l'état des sièges. Est-ce que ça s'inscrit dans une divergence de vues entre le gouvernement et les parlements, ou c'est une question de perception et de compréhension par rapport aux résultats?
Jusqu'à ce stade, il n'y a aucune divergence. Alors, je pense pas aucune divergence. Mais nous n'allons pas cautionner la terre. Nous n'allons pas cautionner la terre parce que ça a des effets collatéraux graves sur terrain. Il ne faut pas attendre 25 jours. Il n'a fallu pas attendre deux semaines passées pour que les moyens sortent. Et l'Assemblée nationale, je ne pense pas que le Parlement sera là pour gober, pour accepter, pour accompagner tout ce retard-là. Nous voulons que les choses marchent sur terrain, que les choses changent sur terrain. Parce que vous-même, vous serez comprendre, nous avons des contraintes légales qui nous entourent. Les contraintes légales, c'est que nous allons prolonger d'ici samedi. On va donner 15 jours. Et les 15 jours, autres vont nous amener à une session, voilà. À une session extraordinaire.
Merci.
Parce que nous sommes à la fin de notre session.
Voilà. Là, on est coincé par le temps. Il y avait déjà Sylvain qui est en ligne, hein. Sylvain, je ne sais pas, ça va être compliqué pour lui. Mais Sylvain, peut-être dire juste un mot en 30 secondes parce qu'on doit déjà, conclure rapidement cette émission. Sylvain, vous êtes avec nous, juste un mot.
Je suis avec vous, la radio KP, je vous salue. Mm-hmm. En peu de mots, je vous dis que nous étions contents en voyant le président de la République décréter le temps de siège. C'était pour nous une solution pour la paix. Mais finalement, on se rend compte que depuis que l'état de siège est décrété à Béni, et l'insécurité est récurrente et accrue davantage. Mmh. Alors nous ne voyons pas important pourquoi on doit prolonger le temps de siège alors qu'il n'y a pas solution. Il faudrait maintenant rentrer dans la vie civile, puisque là, on donne aux autorités, étant militaires que policières, des attributions administratives. Et pourtant, que, en réalité, les choses ne sont pas normales.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. On remet la parole à notre invité pour conclure. Est-ce que ce n'était pas aussi trop attendre on a tellement placé la barre très haute de trop attendre de l'état des sièges, comme les gens le disent, autant mieux retourner à l'état parce qu'il n'y a pas de changement. Ça veut dire qu'on a trop attendu aussi de l'état des sièges.
On ne pouvait que trop attendre parce que c'est une mesure exceptionnelle. Et nous disons que le débat sera houlé au Parlement. Nous attendons le gouvernement pour venir nous demander la prolongation. On va lui dire que les choses n'ont pas marché et par conséquent, dès maintenant, les choses doivent marcher. On lui donnera les 2 semaines qu'on va pouvoir nous demander et nous serons très rigoureux dans le temps qui va venir après parce que nous ne voulons pas qu'il y ait une autre personne tuée dans la Ituri et au Nord Kivu.
Merci beaucoup, Monsieur Jackson Aoussé, député national élu du territoire du Rumu, élu du Rumu dans la province de l'Ituri. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Paul Badianyama qui a mis en nom de cette émission, réalisée par Jocelyne Mukendi. On se retrouve demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Vous pouvez la réécouter sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.